الشلبي
démarrons l'émission Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui propose cette émission. Je suis avec Émilie. Merci Émilie d'être là ce soir après ta journée de travail. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Pour Palestine 13, je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités et documents de fond, pages culturelles ou sportives. Et bien sûr, vous y trouverez l'agenda des événements locaux liés à la Palestine et au Moyen-Orient, conférences, films, rencontres, ventes de produits palestiniens, etc. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, le sponsor de l'OM. Honte à lui, car c'est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Ce soir, c'est l'émission de Noël, c'est ma préférée, et celle que je m'arrange pour animer chaque année, vous le savez. Je ne suis pas croyante, je suis même plutôt ni Dieu ni maître, mais j'aime l'ambiance de partage, les lumières, les réunions de famille et bien sûr les cadeaux. Pas n'importe quel cadeau, des cadeaux solidaires bien sûr, des produits palestiniens, huile, zaatar, poterie, broderie, que nous vous proposons et que vous pouvez acheter chez nos amis du Philistin. Des bons d'achat dans les restaurants palestiniens de Marseille, les deux Yasmine, bien sûr, et nous espérons que le restaurant Ziriat de notre ami Mohamed, fermé temporairement, va rouvrir très vite. Vous pouvez offrir aussi des livres chez nos amis engagés Transit ou chez les bons libraires que nous avons la chance d'avoir à Marseille, comme la librairie Maupetit, qui accueille les soirées littéraires « Palestine, j'écris ton nom ». Nous vous recommanderons un livre à moins de 7 euros au cours de cette émission. Je suis sûre que vous allez y courir. Et il y a bien sûr d'autres cadeaux solidaires, le café Zapatiste de Mutzwitz, des agendas du mouvement de la paix. Ils sont magnifiques et engagés. Ils sont disponibles par correspondance ou dans les locaux du mouvement de la paix, rue Forbin. Vous pouvez aussi offrir des produits solidaires du CCFD, le Comité catholique contre la faim dans le monde, et de la boutique Artisan du Monde bio du boulevard de la Libération. On peut aussi offrir à ceux qu'on aime une place de spectacle à la Criée où la grande actrice palestinienne Ibam Abbas se produira le 22 janvier 2022 pour un spectacle engagé, plaidoyer pour une civilisation nouvelle. Je vous le relis, c'est trop beau, plaidoyer pour une civilisation nouvelle sur des textes de Simone Veil. Sur scène, Ibam Abbas se produira avec un cœur amateur qui mettra en lumière la pensée brûlante et la grâce de cette philosophe d'exception, libre et engagée. Donc le 22 janvier 22 à la Criée. Pour ces propositions, vous trouverez plus de détails sur le site de Palestine 13. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, envoyez-nous un petit message asso.palestine13@gmail.com. Nous dédions cette émission aux enfants palestiniens, mais aussi aux enfants syriens, yéménites, aux enfants sahraouis, aux migrants, aux enfants réfugiés, aux sans-papiers, aux sans-domicile et à tous les militants qui s'engagent pour un monde de justice et de paix. Et pour eux, pour nous, pour vous, je vous propose une émission de Noël joyeuse et enracinée dans notre mémoire commune. Joyeuse, avec des chants de Mohamed Assaf. Mohamed Assaf, vous vous rappelez, c'est celui qui avait été révélé par le film « Le chanteur de Gaza ». Mohamed Assaf avait fait la fierté de la bande de Gaza en gagnant le télécrochet « Arabe Idole » en 2013. Celui qui avait mis le territoire palestinien meurtri sous les feux des projecteurs et le héros du film de Hani Abou Assad qui a raconté son parcours semé d'embûches. Au cours de l'émission, des célébrations avaient éclaté dans la bande de Gaza. Des portraits de Mohamed Assad ornaient les façades des immeubles. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait même téléphoné à Mohamed Assad pour l'encourager avant la séance finale. C'était la première fois qu'un Palestinien s'illustrait avec succès dans une émission. Pareil. C'est d'ailleurs avec la célèbre chanson Ali al-Koufier, littéralement brandi le kéfier, le foulard emblématique des Palestiniens, que le jeune homme avait remporté la finale de ce télécrochet. Donc pour cette émission de Noël, nous avons été à la recherche de Mohamed Assaf. Qu'est-ce qu'il était devenu ? Quand il a remporté le Arabe Idole, il avait 22 ans. Aujourd'hui, il a donc plus de 30 ans. Et il continue de chanter. Il a sorti 2 albums différents et régulièrement différents titres très célèbres au Moyen-Orient. Mais il est aussi devenu ambassadeur pour la paix, pour l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Au cours de cette émission, nous écouterons des chansons de Mohamed Assaf, ceux qui chantent aujourd'hui en exil aux États arabes unis, parce qu'effectivement, beaucoup de Palestiniens comme lui sont en exil. Et pour commencer, la chanson qu'il a rendue célèbre, donc Ali al-Koufia, brandit le kéfier, avec laquelle le jeune homme avait remporté la finale du télécrochet. Nous écoutons Ali al-Koufia.
علي الكوفية علي ولو لح فيها
De la musique ce soir avec Mohamed Assaf. Nous écouterons d'autres titres actuels, les chansons qui sont un grand succès aux États arabes unis cette année. Mais en plus de la musique, nous vous proposons des contes palestiniens, puisque c'est l'émission de Noël. Nous avons eu envie de partager avec vous des histoires qui racontent notre histoire commune, qui entremêlent nos peurs, nos rêves, nos imaginations. Nous avons choisi un petit ouvrage dans la collection de poches des éditions Babel, donc à la portée de toutes les bourses, mais un ouvrage très soigné, avec en couverture un très beau dessin de Leila Chaoua, une artiste palestinienne militante née à Gaza. Le livre que nous avons choisi s'appelle tout simplement « Contes palestiniens de Palestine ». Il est de Praline Guépara.
Titulaire d'un doctorat en ethnolinguistique, Praline Guépara est conteuse et se produit dans de nombreux lieux et festivals, en France ou dans le monde. Elle a publié une quinzaine de recueils de contes, dont 5 dans la collection Babel, notamment « Contes curieux des quatre coins du monde », Babel numéro 818.
Donc nous, aujourd'hui, c'est Babel, les contes palestiniens, et nous allons vous lire la présentation en quatrième de couverture, puis l'avant-propos, avant de vous lire des contes que nous avons choisis pour vous et nous espérons qu'ils vous plairont. Donc, la présentation de ce livre.
Contes populaires de Palestine. Merveilleux, facétieux ou animalier, ces contes sont extraits d'un vaste corpus provenant de différents recueils collectés dans la tradition orale palestinienne. Le lecteur reconnaîtra dans certains récits une parenté avec des contes célèbres du répertoire international. D'autres textes l'étonneront par leur originalité, de ton ou de motif. Tous sont le fruit d'un métissage millénaire, une alchimie que seul un pays comme la Palestine, où se sont succédés et croisés tant de peuples, de religions et de cultures, pouvait nous offrir.
Donc je vais vous lire l'avant-propos de ce livre. Et l'avant-propos est intitulé « Éclat de mémoire ». Une vieille palestinienne, dans le camp de réfugiés de Nahr al-Barid, dans le nord Liban, ne sort de chez elle que recouverte d'un tissu rayé, noir et jaune, rapiécé de toutes parts. Tous la connaissent, mais nul ne se permet de lui demander la raison de son accoutrement. Un jour, un jeune homme ose l'aborder et lui demande le pourquoi et le comment de ce tissu. Elle se met dans une rage folle, d'abord parce qu'il est inconvénient de se montrer curieux avec une femme de son âge, mais surtout parce que le jeune homme ne connaît pas sa culture. « Ce tissu, c'est la tradition », lui lance-t-elle. Dans un autre camp de Beyrouth, un enfant demande à son grand-père de lui raconter comment il a quitté la Palestine. L'homme exilé en 1948 fouille dans un coffre et arbore fièrement une lampe à pétrole en fer blanc, le seul objet qu'il avait gardé de son visage. Pour l'occasion, il l'allume en précisant « C'est la première fois depuis 1948. » La flamme réchauffe la mémoire du grand-père et réveille les histoires. Un rite de transmission en quelque sorte, simple et dépouillé comme sa vie. Ceux qui n'ont pas d'objet relique, ceux qui ont perdu la clé de la maison, qu'ils avaient attachée autour de leur cou lors de leur départ forcé, pensant revenir dans quelques jours, ils n'ont plus que des images à transmettre. Ces images, ils les dessinent avec des mots, des récits, des chansons, de la musique, de la poésie. Et comme, pour ne pas oublier leur lien avec la terre, en bons fils de paysans fidèles à leur héritage, ils cultivent, dans les quelques centimètres carrés d'une courette ou d'un bidon d'huile, des jardins de rêve, comme s'ils sont habités que par un pied de vigne ou par une plante grasse. La Palestine, chacun la porte sur lui, où qu'il aille, et la raconte, la revendique, la rêve à sa manière. Donc pour le premier conte qu'Émilie va nous lire, c'est elle qui l'a choisi, il s'appelle Hassan le Rusé.
En vérité, cela ne s'est jamais passé, et si cela a été, c'est dans le temps le plus ancien du temps. Vous qui m'écoutez ici, priez pour Bader Tamam, l'héroïne au destin fabuleux. Il y avait un roi qui n'avait qu'une fille, belle comme le matin, son seul enfant. Il l'aimait plus que lui-même. Il rêvait de la marier à un prince beau et courageux qui soit digne d'elle. Un jour, il décide de rassembler les princes de tous les pays. Il les présente un à un à la princesse. Tous lui font une demande en mariage, en bonne et due forme. Elle les refuse, tous. Aucun n'a grâce à ses yeux. Le roi est fou de rage. Il faut un prince à sa fille. Ils sont tous là, des quatre coins du monde. Il appelle sa fille et lui demande la raison de son caprice. La jeune fille avoue qu'elle aime en secret, depuis toujours, un jeune homme prénommé Hassan. Un garçon du peuple, brave et honnête, beau garçon et aimable. Mais un homme du peuple quand même. Le roi ne dit rien. Il réfléchit toute la nuit. Il cherche un moyen pour éloigner la princesse de son amoureux. Emmener sa fille en voyage au bout du monde, faire disparaître le jeune homme, leur interdire de se voir. Toutes les idées se bousculent dans la tête du roi et aucune ne semble être la bonne. Chacune de ces solutions mettra la princesse en colère ou la rendra mélancolique. Et ça, le roi ne le supportera pas. Sa fille est malheureuse à cause de lui, la prunelle de ses yeux qui refuse de lui parler, jamais. Le roi a un vizir. Son conseiller, habile et rusé, comme un renard. Il le fait appeler et lui demande conseil. Le vizir le rassure. « Je m'en occupe. Je trouverai la solution qui te convient. Éloigne Hassan de ma fille sans qu'elle se fâche avec moi. Je veux son bonheur. » Le vizir sourit, puis il dit. « Je te propose de faire venir Hassan ici. Nous lui dirons que nous savons qu'il aime la princesse et qu'il pourra l'épouser à une seule condition. » Nous lui dirons, jeune homme, voici deux papiers. Tu dois en choisir un. Si tu prends le papier sur lequel nous avons écrit le mot vie, tu épouseras la princesse. Si tu choisis le papier sur lequel nous avons écrit le mot mort, tu mourras. Ainsi en a décidé le sort. Le roi écoute, puis demande. Et s'il tire le mot vie, je serai bien ennuyé et je devrais lui donner ma fille en mariage. Il n'en est pas question. Ne t'inquiète donc pas. On peut aussi écrire le mot « mort » sur les deux papiers. Le roi éclate de rire. Tu es le meilleur conseiller qui soit, l'homme le plus fiable du royaume. Le lendemain, une fête est donnée dans le palais. Le roi a invité tous ses amis et le jeune Hassan aussi. Pendant que tout le palais vit au rythme des préparatifs, la princesse envoie un message à Hassan dans lequel elle le supplie de ne pas répondre à l'invitation. Elle le prévient qu'il se trame quelque chose contre lui. Le soir, les invités commencent à arriver. Le roi et le vizir ont l'air heureux. La princesse ne s'inquiète de rien puisqu'elle a prévenu son bien-aimé. Les invités discutent, s'amusent, quand soudain apparaît Hassan. Il est joyeux et ne craint rien. Un silence se fait dans la salle, tous attendent de voir ce qui va se passer. Le roi entame un discours. « Chers amis, mon peuple, « je suis un roi juste et équitable. Ce jeune homme, Hassan, veut épouser ma fille unique, la princesse. Il devra pour cela accomplir une épreuve. Il doit choisir l'un des deux papiers pliés dans cette boîte. S'il tire le mot « vie », il l'épousera, bien qu'il ne soit pas de sang royal. S'il tire le mot « mort », il mourra, mais il aura décrété sa mort lui-même. Les invités acclament le roi. Hassan, toujours aussi souriant, s'approche de la boîte, prend un papier, le froisse, le porte à sa bouche et l'avale aussitôt. Le roi et le vizir n'en croient pas leurs yeux. Ils demandent des explications au jeune homme. Il dit « J'ai avalé le papier sur lequel est marqué mon destin. Il faut regarder ce qui est écrit sur le papier qui est au fond de la boîte et nous déduirons lequel j'ai avalé. » La princesse n'ose pas respirer tant elle a peur pour la vie de son amoureux. Le vizir étouffe de rage, mais il doit s'exécuter devant les invités. Il prend le papier qui reste, le déplie et lit à voix haute « Mort ». Hassan, sûr de lui, dit « Cela signifie que j'ai tiré le mot « vie ». Les invités se réjouissent pour lui et crient d'une même voix « Vive Hassan, notre nouveau roi !» Et pendant que la princesse et Hassan partagent leur bonheur et leur soulagement, le roi dit à son vizir « Tu es l'être le plus inutile de ce palais. Tu es la nullité personnifiée. Tu te croyais malin. Maintenant, tu peux aller donner tes conseils ailleurs. Disparais de ma vue. » Le vizir a disparu et Hassan est devenu vizir à sa place. Et quand le roi est mort, Hassan est devenu roi et la princesse est devenue reine. On dit qu'ils ont vécu longtemps une vie de paradis à l'abri du chagrin et des soucis. L'oiseau s'est envolé et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Émilie de nous avoir lu ce conte que tu avais choisi, Hassan le Rusé, donc extrait du livre Contes populaires de Palestine de Praline Grépara. Et maintenant, comme promis, la dernière chanson, elle date de cette année, de Mohamed Assaf, qui, comme je vous l'ai dit, vit aux États arabes unis et y connaît un grand succès. Cette chanson s'appelle « Salut to Al-Quds ». Donc la deuxième histoire que nous allons vous raconter, c'est Émilie qui l'a choisie aussi. Donc c'est extrait du livre « Contes populaires de Palestine » recueilli par Praline Guépara. Et cette histoire s'appelle « Chaïne ». À toi, Émilie.
Un fois il était, une fois il n'était pas. Il y a bien longtemps de cela, nobles auditeurs, mon histoire la voilà. Il était donc un roi qui avait une fille unique. Elle lui était aussi chère que la prunelle de ses yeux. Elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer dans le palais, mais elle s'ennuyait à mourir. Un jour, vautrée dans le désœuvrement le plus total, elle appelle auprès d'elle la fille du vizir. Elles s'ennuient ensemble maintenant. Elles ne savent pas comment passer le temps. La fille du vizir a enfin une idée. « Et si nous allions nous promener ?»« Pourquoi pas ?» répond la princesse. Elle appelle les filles de tous les conseillers du palais et les invite à se joindre à elle pour une promenade. Et voici 40 jeunes filles qui se dirigent vers les jardins du palais. Elles courent dans tous les sens, jouent à cache-cache dans les buissons et les bosquets. Cachée, en silence derrière une haie, la fille du vizir voit, par terre, un énorme anneau de métal. Elle le saisit à deux mains et tente de le soulever. Il est si lourd ! Elle tire de toutes ses forces et une trappe s'ouvre sur un passage souterrain. Sans hésiter un seul instant, elle emprunte le passage. Elle marche droit devant elle, elle avance encore longtemps et se retrouve devant un jeune homme en train de plumer du gibier. Il a, derrière lui, des gazelles, des perdreaux et des lièvres qui attendent leur tour pour être plumés ou dépecés. Il est tout à son travail. Il ne l'entend pas arriver, il ne la voit pas non plus. Aussi, quand elle le salue, il sursaute et répond « Qui es-tu ? Fille d'un humain ou fille d'un génie ? Humaine, fille d'un humain. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Le jeune homme sourit et répond « Nous sommes 4 frères, nous sommes 40 frères. Tous les jours, mes frères partent à la chasse et moi, je reste à la maison, préparée à manger. » « C'est parfait, » répond la fille du vizir. « Nous sommes 40 jeunes filles et vous 40 jeunes gens. Moi, je t'épouse, la fille du roi épouse ton frère aîné, un autre sera la femme de ton autre frère. » Ainsi, elle arrange 40 mariages à sa guise. Le jeune homme en est tout réjoui. Il sourit de plaisir. Elle lui demande « Quel est ton nom ?»« Chaïne. Sois le bienvenu, Chaïne. » Chaïne va chercher une chaise et invite la jeune fille à s'asseoir. Elle s'installe et passe plusieurs heures à bavarder avec lui et à s'amuser. Elle le voit préparer la viande et la rôtir. Quand la viande est cuite, il lui en offre et elle mange de bon appétit. Le repas est prêt. Elle demande « Vous avez des fruits secs ici ?»« Bien sûr, et des meilleurs. »« Veux-tu m'en offrir ? Ça nous fera passer le temps. » Il est tout heureux de lui faire plaisir. Il se lève, pose une échelle contre le rebord d'un grenier à provisions et monte. Il remplit un mouchoir d'amandes, de pois chiches grillés et de raisins secs. Au moment où il fait mine de descendre, elle lui dit « Donne-moi le mouchoir, je vais t'aider à descendre. » Chaïne lui lance le mouchoir rempli de friandises. Elle l'attrape et retire aussitôt l'échelle qu'elle pose par terre. Le jeune homme ne peut plus descendre. Il a beau appeler, elle fait la sourde oreille et retourne dans la cuisine. Elle sert le repas qui vient d'être cuit dans un grand plat, l'arrose de sauce et emprunte le passage souterrain en direction de la sortie. Arrivée dans les jardins du palais, elle prend soin de bien refermer la trappe derrière elle. Elle recouvre l'anneau d'herbe et va poser le plat encore fumant sous un arbre. Elle appelle ses compagnes. « À table, le repas est servi !» Elles arrivent tout en riant et quand elles voient le plat de viande, elles demandent « D'où vient ce plat ? Qui a cuisiné ça ?»« Mangez et ne posez pas de questions. » Il y avait là de quoi nourrir 40 jeunes gens et elles étaient 40 jeunes filles. Elles ont tout mangé, elles n'en ont pas laissé la moindre miette. Quand toutes se sont dispersées à nouveau, la fille du vizir a pris soin de se faufiler sans être vue dans le passage souterrain. Elle a remis le plateau là où elle l'avait pris, ni vu ni connu. Elle est rentrée, comme toutes les autres, au palais. Laissons-les au palais et retournons chez les 40 frères. Ils rentrent le soir et ne trouvent pas Chaïne. Ils le cherchent partout, ils l'appellent. Il leur répond enfin. Ils suivent sa voix et le trouvent au grenier. « Que fais-tu donc, perché là-haut ? Rien, après avoir mangé, j'ai eu envie de m'adoucir le palais avec quelques fruits secs. L'échelle a glissé et je n'ai pas eu le temps de la rattraper. Je suis resté coincé ici. » Ses frères remettent l'échelle en place et l'aident à descendre. Ils déposent le gibier pris dans la journée dans un coin de la cuisine et s'installent autour de la table pour manger. « Shane, sers-nous à manger. » Shane va prendre le plat dans lequel il avait disposé les morceaux de viande pour le repas. Il est vide. Il revient auprès de ses frères et dit « Les chats ont tout mangé pendant que j'étais coincé au grenier. Tant pis, fais-nous quelque chose de rapide à manger. » Il prend quelques restes de gibier, des abats, les cuit vite fait et donne à manger à ses frères. Ils sont rassasiés et vont se coucher. Le lendemain matin, avant de partir à la chasse, ils lui disent non sans malice. Ce soir, nous pourrons aller nous coucher sans manger. Tu donneras le repas au chat. Vous êtes fou ! Jamais je ne ferai une chose pareille, se fâche Shaïn. Dès que ses frères ont le dos tourné, il se met au travail. Il retrousse ses manches, trie le gibier et commence à plumer, dépouiller, dépecer. Les lièvres, les gazelles et les perdreaux s'entassent bientôt près du feu. Pendant que Shaïn prépare le repas de ses frères, dans le palais, c'est l'effervescence. La fille du vizir rassemble toutes les jeunes filles et les emmène dans les jardins. Elles s'éparpillent parmi les arbres et les buissons. Et quand elles sont toutes à leur jeu, elles se dirigent discrètement vers le passage souterrain, soulèvent la trappe et font irruption chez Shaïn. « Salut !»« Salut toi ! Au grenier, tu m'as coincé. Le repas de mes frères, tu as volé. » « Je n'avais que la honte sur le visage pour les accueillir, » répond le jeune homme, mi-colère, mi-joie. Elle sourit et dit « Moi, quand j'aime, je fais toujours pire. Quoi que tu fasses, tu es plus douce à mon cœur que le miel. » Il est heureux. Il l'invite à s'asseoir et lui offre des friandises. Il rit et bavarde pendant qu'il prépare le repas. Elle lui tient agréable compagnie et quand il a fini, elle se lève et demande « J'ai un besoin urgent. Tu peux me montrer la salle de bain ? C'est par ici. C'est très urgent. Viens avec moi pour m'indiquer le chemin. » Quand ils arrivent devant la porte, elle fait mine de ne pas savoir ouvrir la porte. Le jeune homme passe devant elle. Elle le pousse à l'intérieur et le précipite dans les latrines. Il y plonge, la tête la première, les deux jambes en l'air. Elle rit à s'étouffer, referme la porte à clé et se précipite dans la cuisine. Elle serre les morceaux de viande dans un plat, les arrose de sauce parfumée et va retrouver ses camarades. « Le repas est servi !» Elles arrivent de tous côtés et demandent « D'où vient un tel repas ? Contentez-vous de manger et ne posez pas de questions. » Comme une nuée de pigeons, les jeunes filles ont plongé sur le plat et quand elles sont reparties, il était complètement vide. La fille du vizir a emprunté le passage souterrain pour aller remettre le plat où elle l'avait pris avant de regagner sa chambre dans le palais. De l'autre côté du passage souterrain, les frères de Shaïn rentrent de la chasse. Ils le cherchent partout, l'appellent, inspectent le grenier, les moindres recoins de la maison. Personne. L'un d'eux dit « Shaïn nous prend pour des imbéciles. Il nous raconte des mensonges. Je suis certain qu'il y a une fille dans cette histoire. » Un autre, plus impatient, répond « J'ai faim. Allons dans la cuisine prendre ce qu'il nous a préparé. Il finira bien par rentrer. » Ils se rendent donc dans la cuisine où ils constatent qu'il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Tous les plats sont aussi propres que vides. Ils improvisent un repas vite fait et vont se coucher. L'un d'eux a un besoin urgent, sauf le respect que je vous dois. Il va pour se soulager et trouve Shaïn dans un drôle d'état, les jambes en l'air, la tête en bas, qui se débat. Il appelle ses frères à la rescousse et ils parviennent à le tirer de là. Le malheureux est pitoyable. Il le lave, le parfume et lui demande comment il a fait pour se retrouver dans un tel pétrin. « J'avais fini de préparer le repas et j'ai eu un besoin urgent. Je suis sorti pour aller me soulager et il y avait de l'eau par terre. J'ai glissé et je me suis retrouvé où vous savez. » « Et le dîner ?» demande l'aîné. « Qui c'est qui l'a mangé ?»« Le dîner est prêt dans la cuisine. Ne me dites pas que les chats l'ont encore mangé ?» demande Shaïn affolé. Les frères, hochent la tête et vont se coucher. Le lendemain matin, avant de partir chasser, ils le mettent en garde. « Ne t'avise pas de nous laisser sans dîner ce soir aussi. » Il est tout honteux. Il promet que plus jamais. Mais la fille du vizir, en se réveillant, n'a qu'une envie, recommencer. Dans le palais, elle rassemble les jeunes filles, les entraîne dans les jardins, et quand elles sont toutes dispersées aux quatre coins, elle en profite pour se faufiler dans le passage souterrain. Elle trouve Shahin assis en train de plumer et de dépecer. Elle le salue. Il se tourne vers elle et dit « Tu es la bienvenue. Le premier jour, au grenier, tu m'as coincé. Le deuxième jour, dans les latrines, tu m'as plongé. Et tous les jours, le dîner, tu as volé. J'étais couvert de honte devant mes frères. Je ne savais plus quoi inventer. » Elle rit et répond « Moi, quand j'aime, je fais toujours pire. Et pour moi, c'est plus doux à mon cœur que le miel. » Elle s'installe à côté de lui. Il lui offre des fruits secs et des friandises, et tous les deux bavardent et passent du bon temps. Le repas est enfin prêt. Elle dit « Shahin, tu n'as rien à boire ici ?»« Bien sûr que si. » »« Alors, puisqu'il y a à manger, il nous faut à boire maintenant. » Shahin va prendre une bouteille de boisson forte et tous les deux commencent à boire. Elle lui sert verre après verre. « Et un verre à ma santé, et un verre à mon bonheur, et un verre à ceci, et un verre à cela. » Il boit tant et tant qu'il finit par s'écrouler par terre, complètement endormi. Elle va prendre du sucre dans la cuisine, le fait fondre dans une poêle et prépare du caramel pour l'épilation des femmes et des jeunes filles. Quand la pâte est bien collante, elle se met à épiler Shahin consciencieusement. Elle lui fait une peau lisse et propre comme une vraie jeune fille au jour de ses noces. Elle va chercher une robe et l'habille, puis elle lui couvre la tête d'un foulard. Elle lui poudre le visage et le maquille avant de l'allonger sur un lit. Elle baisse le foulard de manière à lui cacher la figure et lui remonte les couvertures jusqu'au menton. Quand elle l'a ainsi installé, elle va dans la cuisine, emporte le dîner et remonte chez ses camarades. Les jeunes filles font honneur au repas et quand le plat est entièrement nettoyé, elle va le remettre à sa place dans la cuisine à l'autre bout du passage souterrain. À la tombée de la nuit, les frères de Shahin rentrent à la maison. Ils appellent leurs frères. Personne ne répond. Les uns regardent dans les latrines, les autres vont chercher au grenier. Shahin a disparu. « Je vous l'avais bien dit, remarque l'un des frères. Il y a une amie et il est parti avec elle. » Les frères vont dans la cuisine pour servir le dîner. Les plats sont vides. Pour la troisième fois depuis le début de l'histoire, ils se préparent à manger, vite fait, bien fait, et vont se coucher. L'un des frères se met à crier. « Il a une amie ! Oui, il a une amie ! Venez voir, elle dort dans mon lit !» Tous se précipitent vers le lit où la jeune fille est endormie. Il rit et crie. « La fiancée de Shahin ! La fiancée de Shahin !» Il relève le foulard, baisse la couverture. « Mais c'est Shahin !» Il lui jette un seau d'eau à la figure pour le réveiller. Et quand il a les yeux grands ouverts, il lui présente une glace. Il se regarde abasourdi. Une jeune fille. « Qu'est-ce que tu vas inventer maintenant ?» lui demande l'un de ses frères. « Je vais tout vous raconter. Je vous dirai toute la vérité. Tous les matins, une jeune fille vient me voir. Elle est belle et futée. Elle me dit comme ça. « Vous êtes 40 garçons et nous sommes 40 filles. » L'aîné de tes frères épousera la fille du roi. Moi, mon époux, ce sera toi. Et tous les autres, et tout ça. C'est elle qui me met tous les jours dans des situations impossibles. L'aîné des frères réfléchit, puis il dit. Mes frères, demain vous irez à la chasse sans moi. Je vais rester auprès de Shahin et je lui apprendrai comment il faut agir avec cette jeune fille. Le lendemain matin, les frères partent à la chasse et l'aîné reste avec Shahin à la maison. Son sabre dégainé, il attend la demoiselle. Dans le palais, comme tous les matins, les jeunes filles se réunissent et vont jouer dans les jardins. Quand elles sont éparpillées dans tous les recoins, la fille du vizir emprunte le passage souterrain et arrive chez Shahin. Il est assis, de dos, et ne la voit pas arriver. « Que la paix soit sur toi, dit-elle. Que la paix soit sur toi, répond-il. Le premier jour, au grenier, tu m'as coincé, je n'ai rien dit. Le deuxième jour, dans les latrines, tu m'as plongé, je n'ai rien dit. Le troisième jour, tu m'as épilé et maquillé, et en fille, tu m'as déguisé. Avec aplomb, elle répond. Moi, quand j'aime, je fais toujours pire. C'est à ce moment que l'aîné des frères surgit, son sabre levé, menaçant. Toujours aussi sûre d'elle, elle le regarde dans les yeux et lui dit « Calme-toi et écoute-moi. Vous êtes 40 garçons et nous sommes 40 filles. La fille du roi sera ta femme. Moi, j'épouserai Shine. Et les autres, une telle épousera un tel et une telle un tel. » « Tu dis vrai ?» demande l'aîné abasourdi. Elle acquiesce. La colère et le sabre du jeune homme retombent en même temps. Il demande alors, « Et qui peut parler au nom de toutes ces demoiselles ? » « Moi-même. Alors je vais te payer la somme que nous devons verser avant de célébrer les noces. Où nous retrouverons-nous ? » Elle sourit et répond. « Demain, rendez-vous avec tous tes frères au hammam. Tu nous réserveras les lieux et toi et tes frères, vous vous tiendrez debout devant la porte et quand nous arriverons, vous nous compterez. Ainsi, vous pourrez vérifier que le nombre y est. Une fiancée pour chacun de vous. Quand nous aurons fini, vous nous attendrez à la sortie et chacun de vous prendra sa fiancée par la main et l'emmènera chez lui. » L'aîné étale la mouchoire par terre et se met à compter l'argent. Il compte. 100 pièces d'or pour chaque fiancée. Elle prend l'argent et remonte en courant rejoindre ses camarades. « Venez voir ! Asseyez-vous autour de moi et ouvrez la main. Chacune va recevoir la somme qui lui est due pour le mariage. » Certaines tentent de rouspéter ou de poser des questions. Elle leur impose le silence. Quand chacune d'elles a reçu la somme qui lui revient, elle leur dit « Il est temps de rentrer maintenant. » Pendant ce temps, dans le souterrain, Chahine dit à son frère aîné « Quand elle s'est moquée de moi, elle a pris le repas. Aujourd'hui, c'est de toi qu'elle s'est moquée et c'est l'argent qu'elle t'a volé. Quoi ? Tu verras ce que tu verras. Elle n'est pas née celle qui peut se moquer de moi. Demain, tu verras ce que tu verras. » Et le lendemain, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Les 40 frères ne sont pas allés à la chasse. Ils sont postés au garde-à-vous devant le hammam qu'ils ont loué pour l'occasion, afin que ces demoiselles puissent s'y mettre à leur aise. La fille du vizir vient de rassembler toutes ses compagnes. Elles arrivent devant la porte principale du hammam. Elles entrent l'une après l'autre et le cher monsieur, l'aîné des 40 frères, debout devant la porte, les compte. Il compte jusqu'à 40. Quelle bénédiction ! 40 jeunes filles qui entrent en même temps dans un hammam. Elles se baignent, se détendent, se font belles et quand elles ont fini et qu'elles sont rhabillées, la petite rusée leur dit « Que chacune se soulage dans son bol de cuivre. » Elles font comme elle a dit et quand les bols sont remplis d'excréments, elles les alignent le long du mur. Ensuite, elles sortent par la petite porte de derrière, celle qui donne sur une ruelle tranquille, et elle rentre joyeusement au palais. Devant la grande porte, l'autre, sûr de lui, attend. Il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il attend 4 heures. Personne. Il commence à s'impatienter. « Elles vont passer la journée ici ?»« Je suis sûre qu'elles sont parties, » répond Chahine qui commence à connaître l'oiseau. « Tu es stupide, » se fâche l'aîné. « Elles sont entrées par cette porte, où veux-tu qu'elles aillent ?» Pour en avoir le cœur net, ils finissent par entrer et demandent au tenancier des lieux. « Où sont les 40 jeunes filles qui sont venues ce matin ?» L'homme rit. « Cela fait un bail qu'elles sont parties !» L'aîné des jeunes gens s'affole. « Comment parties ? Par où parties ?»« Par là, » répond l'homme en montrant la petite porte. Chahine s'approche de la porte et voit les 40 bols remplis des 40 souvenirs, bien alignés. Il appelle son frère. « Viens voir, il y en a 40 !» Elle te les a bien alignés. J'ai vu ce que j'ai vu. » Les 40 jeunes sont abasourdis. Que faire maintenant ? Je vais m'occuper de cette diablesse. Laissez-moi faire, je m'en charge, promet Chahine. Le lendemain matin, il s'habille en vieille femme, met un chapelet autour de son cou et se dirige vers la ville. La fille du vizir est avec ses compagnes dans le palais. De la fenêtre qui donne sur la rue, elle le voit arriver et le reconnaît. Elle prévient tout de suite les autres. « Je vais appeler quelqu'un et l'inviter à entrer. Quand il sera à l'intérieur, vous lui ferez le meilleur accueil. Vous lui direz « Bonjour ma tante, bienvenue à toi ma tante. » Elle l'observe par la fenêtre et quand il est devant la porte, elle ouvre. Lui saisit la main et le tire à l'intérieur. Toutes les jeunes filles se mettent à crier en même temps. « Bonjour ma tante, bienvenue à toi ma tante. » Elle referme la porte puis elle dit « Cela fait si longtemps que nos vêtements n'ont pas été lavés par tes mains ma tante. Déshabillez-vous les filles, déshabillez-vous. » Chahine est paralysée, dépassée par les événements. Il répond pitoyablement. « Je suis fatiguée, les filles, je ne pourrai pas laver tout ce linge, je me fais vieille. »« Ne fais pas tant de manières, ma tante, tu ne nous as rien lavé depuis si longtemps. » En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Chahine se retrouve entourée des 40 jeunes filles presque nues. Il frotte, lave et transpire jusqu'en plein après-midi, en plein midi. La jeune fille rusée le regarde faire, puis se lève et dit « Les filles, ma tante ne nous a pas donné un bain depuis des années, elle doit nous laver maintenant. » Elles partent toutes chercher des serviettes dans lesquelles elles s'enroulent. Chahine devient fou. Il les lave une à une. Quand elles ont fini, elles se sèchent et font un nœud au bout de leurs serviettes. Elle dit alors « Ma tante a lavé nos vêtements, elle nous a lavé aussi, c'est à nous de, la laver maintenant. » « Pas question, je ne veux pas être lavée, vous ne pouvez pas. » Elle l'interrompt et dit « Tu ne peux pas refuser, ma tante, nous allons te laver, allez !» Les 40 jeunes filles bondissent sur lui, le déshabillent et découvrent que c'est un homme. « Un homme ? Tu te fais passer pour notre tante ? Fouettons-le pour lui apprendre les bonnes manières. » Chacune prend sa serviette nouée et se met à frapper le malheureux Chahine tout seul avec 40 furies. La fille du vizir les encourage à frapper plus fort et quand elle le sent faiblir, elle leur fait signe d'arrêter. Il ne demande pas son reste et se précipite vers la porte. Il l'ouvre et part en courant dans la rue, nu comme un ver. Ses frères l'attendent depuis un bon moment. Ils le voient arriver tout nu et complètement épuisé. Ils se précipitent autour de lui et lui demandent qui l'a mis dans un tel état. Il leur raconte tout ce que nous savons déjà. Chahine regarde ses frères et, avec une grande détermination, il dit « Il ne nous reste qu'une seule solution. Allez les demander en mariage auprès de leur père. »
Moi, je vais de ce pas demander la main de sa fille au vizir et quand elle sera là, je la tuerai. Je lui montrerai de quel bois je me chauffe.
Les frères vont, chacun de son côté, demander la main de sa fiancée à son père. Quand Chahine fait sa demande au vizir, celui-ci lui dit « Je vais lui demander son avis. » La petite rusée répond « Dis-lui que j'accepte, mais il lui faut attendre un mois, le temps de préparer tout le trousseau. » Elle met les vêtements de son père, se cache le visage et va trouver le menuisier muni d'un fouet. Elle lui dit d'une voix grave « Menuisier, je vais t'envoyer une femme du palais. Tu prendras ses mesures et tu lui feras un coffre juste à sa taille pour demain. Si tu la retiens longtemps ou si tu tardes à lui livrer le coffret, je te ferai couper la tête. Oui, mon vizir. » Elle lui donne deux coups de fouet et se dirige vers la boutique du confiseur. « Confiseur, je vais t'envoyer une femme du palais. Tu vas lui prendre ses mesures et tu vas lui fabriquer une poupée en halawa qui lui ressemble trait pour trait, sa sœur jumelle. Si tu la retiens des heures chez toi, et si tu ne livres pas la poupée vite, je te ferai couper la tête. Tes désirs sont des ordres, mon vizir. » Deux coups de fouet et la voici dehors. Elle regagne le palais, remet ses propres vêtements et va chez le menuisier. Il prend les mesures en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ensuite, elle se rend chez le confiseur. Il fait ce qu'il doit faire rapidement. Le lendemain, elle envoie une servante chez le menuisier, puis chez le confiseur, lui chercher ce qu'elle a commandé. Elle met la poupée dans le coffre et demande à sa mère de les faire poser dans la chambre nuptiale avec le trousseau.
Voici le jour des noces. La famille du fiancé arrive. La fiancée est prête. Il l'emmène avec son trousseau et le coffre en bois. Elle va dans la chambre nuptiale, vérifie que tout est là, puis elle renvoie les femmes chez elle. Elle est toute seule maintenant. Elle se déshabille et met ses vêtements à la poupée en halawa. Elle lui enfile ses colliers en or et l'installe à la place de la mariée sur le lit. Elle lui attache la tête avec une ficelle dont elle tient le bout et va se cacher sous le lit. Le marié se fait attendre. Une heure, deux heures, il arrive enfin. Il est très en colère. Il brandit son sabre, décidé à la tuer.
Il dit rageusement : Le premier jour, au grenier, tu m'as coincé. Je n'ai rien dit. Le deuxième jour, dans les latrines, tu m'as plongé. Je n'ai rien dit. Le troisième jour, tu m'as épilé et maquillé. Et en fille, tu m'as déguisé. Je n'ai rien dit. Et tu as continué. L'argent des 40 fiancés, tu as empoché. Et 40 bols de merde, tu as aligné. Elle tire sur la ficelle et la poupée hoche la tête comme pour dire oui. Bienvenue, ma tante. Lave les vêtements. Lave-nous, ma tante. Tout nu, je me suis échappée. La poupée continue de hocher la tête. Et tu dis oui, tu n'as peur de rien. Tu ne regrettes rien. La poupée continue de hocher la tête. Sa colère est telle qu'il lève son sabre et d'un coup, il lui coupe la tête. Le coup est si fort qu'un éclat de halawa vient se poser sur ses lèvres. Il y goûte, savoure. Elle est si douce. Si tu es si douce, morte, quelle douceur avais-tu quand tu étais en vie ? Elle, cachée sous le lit, jubile. Elle sort de sa cachette, derrière lui, et l'enlace. « Je suis là, vivante et bien vivante. » Ils font la paix et se marient pour vivre heureux et mener la belle vie. Et l'histoire est finie.
C'était l'histoire de Chahine, extrait du livre « Contes populaires de Palestine ». Nous vous proposons une troisième chanson récente de Mohamed Assaf, « Ya Palestine », avec aussi pour cette chanson un clip magnifique et festif. En attendant de l'écouter. Quelques notes de Mohamed Assaf. Il faudra le rechercher sur Internet, écouter la suite, parce que vraiment, c'est des chansons qui nous donnent envie de danser. Alors pour finir, juste un tout petit mot, les notes de la conteuse par rapport à ses histoires, à ses contes choisis qui proviennent d'une mémoire ancienne, transmise oralement de génération en génération. Il s'apparente de manière évidente à la grande famille des contes du monde. On voit bien que les Palestiniens sont inscrits dans cette histoire de l'humanité. Ces contes souvent commencent par une naissance extraordinaire. Je voudrais un enfant. Ces contes sont merveilleux. Ils fonctionnent. Et donc, je vous réinvite à découvrir ce recueil de contes populaires de Palestine de Praline Guépara aux éditions Babel, donc moins de 7 euros. Je vous j'invite à écouter Mohamed Assaf pour danser pour le réveillon de Noël. Je vous souhaite à tous un très 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 bon Noël, beaucoup de bonheur, beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité et à l'année prochaine. Shall I be?